À cette rencontre des perspectives agroalimentaires, Yannick Desnoyers lançait son analyse avec quelques constats.
C'est une croissance modérée de l'économie mondiale, qui n'est pas très différente de ce qu'on a connu en 2016, mais une toile de fond où il y a passablement d'incertitudes. Un mot sur la zone euro aussi. Il y a un agenda très chargé au niveau politique, avec plusieurs élections au menu. Un mot, évidemment, sur les États-Unis, avec ce qui s'est passé aux élections. L'économie américaine est en surchauffe. Peut-être que c'est une surprise pour vous, mais il y a des pressions inflationnistes. Elle est cycliquement très avancée, ce qui commandera probablement une réaction de la politique monétaire. Le Canada commence à être moins accroché au cycle américain qu'auparavant, et on va parler de taux de change et de taux d'intérêt à travers tout cela. Donc, pas de feu d'artifice, nos prévisions de l'économie mondiale, donc la croissance du PIB mondial, on la voit légèrement supérieure à 3 % et marquée pas de grande différence là, par rapport à 2016. La différence, évidemment, c'est la toile de fond de l'incertitude.
Pour l'économiste en chef adjoint de la Caisse de dépôt et placement du Québec, l'évolution sera différente entre pays émergents et ceux aux économies plus matures, pourrait-on dire.
Dans les marchés en croissance, les taux d'intérêt vont diminuer au Brésil, la Chine va aller encore relativement bien cette année avec une croissance relativement élevée, l'Inde demeure assez forte. Donc la toile de fond dans les pays émergents est relativement bonne. Là où c'est un peu différent, c'est à travers les pays développés. Donc, on vous dit une croissance à peu près égale à celle de 2016 au plan mondial, mais sur une toile de fond, c'est un indice d'incertitude économique et donc qui est très, très, très élevé. Et on pourrait vous montrer la toile de fond protectionniste, le nombre, en fait, de mesures qui ont été implantées au cours des deux dernières années. Il y a un peu un renversement de la mondialisation. Pas complètement, évidemment, mais on commence à avoir un certain mouvement qui renverse ce qu'on a connu depuis les 40 dernières années. Quand vous regardez les ratios d'exportation mondiale sur le PIB mondial, la planète commence à se refermer un peu, ce qui est l'inverse de ce qu'on a connu depuis les années 70-80.
Globalement, il devrait y avoir une certaine croissance dans la zone euro, mais avec de fortes disparités, par exemple entre l'Allemagne et l'Espagne. Yannick Desnoyers note par ailleurs que la Banque centrale européenne ne réussit pas à faire monter le taux de bonne inflation, celle qui accompagne normalement la croissance. L'Europe est en surcapacité, mais le contexte politique, surtout la montée du Front national, freine cette croissance.
Madame Le Pen, en fait, qui a un projet de sortie de la zone euro pour la France. Et bon, vous savez ce que les sondages ont donné pour M. Trump, qui n'était pas gagnant, mais il a gagné. Là, Marine Le Pen est à 30-40 %. Il y a une firme canadienne qui a réussi à bien prévoir le Brexit et M. Trump, par une méthodologie liée à l'Internet. Ils ne veulent pas, évidemment, divulguer leur formule secrète, mais selon eux, Mme Le Pen gagnerait l'élection en France. Donc, il y a des risques quand on parle d'incertitude. On surveille ça, évidemment. Et les écarts de taux d'intérêt entre les taux italiens, les taux français et Espagne par rapport aux obligations de l'Allemagne. Et quand il y a de l'incertitude, bien, ça monte. Donc, on surveille évidemment tout ce qui est politique en Europe. C'est évidemment la grande question. Pourquoi les taux d'intérêt sont si écrasés depuis 2015 par rapport à la crise de 2012? Évidemment, c'est la Banque centrale qui achète beaucoup d'obligations sur le marché, qui maintient les taux d'intérêt bas. Et présentement, évidemment, en Europe, les taux d'intérêt ne reflètent pas du tout les risques de défaut de paiement des gouvernements, mais la Banque centrale, en fait, joue un rôle stabilisateur et maintient l'unité de la zone. On va voir si la montée du populisme et possiblement l'élection de certains partis vont modifier cette donne-là, mais à suivre. Donc, croissance d'environ 1,5 % en haut du potentiel, mais il y a des risques politiques dans la zone euro.
Du côté des États-Unis, l'économie est un peu en trompe-l'œil, sans jeu de mots.
Donc, il y a une certaine déconnexion entre ce qui se passe sur les marchés financiers, obligataires et boursiers, versus la vraie performance de l'économie réelle. Et remarquez aussi, les croissances économiques en moyenne dans les années 90 étaient plus près de 4 % dans le cycle des années 2000, plus près de 3 % et Depuis la crise financière, ben, on a quelque chose qui est plus près de 1,5%. Nous, on pense que la tendance aux États-Unis est à 1% de croissance, la tendance. Là, évidemment, on a des croissances plus élevées. La Banque centrale a appliqué un effet de stimulation. C'est normal que la croissance soit plus élevée que le potentiel. Et le chômage a descendu depuis 2010. Mais la tendance de fond aux États-Unis, c'est 1%. Et c'est pas très, très élevé pour des raisons de productivité relativement faibles et de vieillissement de la population comme on connaît tous.
Fiscalité et réglementation adoucie pourraient être favorables à l'économie. Mais lorsque Donald Trump ajoute qu'il souhaite plus de protectionnisme, cela inquiète les économistes.
L'assouplissement budgétaire, c'est bon pour la croissance. Quand on baisse les impôts, on génère de l'activité. Le protectionnisme, c'est moins bon pour la croissance. Mais les deux font monter l'inflation. Donc, avec M. Trump, ce qu'on est sûr d'avoir, c'est plus d'inflation. La croissance, on n'est pas certain, ça va dépendre de ce qu'il va faire. Donc, son plan de croissance baisse des impôts, baisse la réglementation, hausse des dépenses militaires. On va voir ce qu'il va être capable de passer au Congrès. Mais il a fait pas mal de nominations protectionnistes au sein de son cabinet. Donc, si on prend un calcul très froid, très rationnel, pas teinté politiquement, mais seulement de ses promesses en campagne électorale, il en a fait beaucoup de promesses, il a dit beaucoup de choses, on arrive à un calcul purement ce qu'il a dit, ça augmenterait le déficit budgétaire américain de 315 milliards par année. Et l'impact économique de ces promesses, ça serait environ 184 milliards par année. Ça, c'est en novembre. Depuis ce temps-là, il y a beaucoup d'eau qui ont coulé sur les ponts. Vous avez vu l'échec de la renégociation du Obamacare. Et donc, ça change la probabilité. Si on avait à refaire ce tableau-là, on serait pas mal plus timide. On pourrait probablement couper par trois tous ces effets-là au niveau de la croissance. Donc, à 184 milliards, on avait un impact stimulant de 0,7% du PIB. Si on refaisait les calculs, on serait plutôt à 0,2, peut-être 0,3 à l'heure actuelle. Mais depuis que M. Trump a gagné son élection, il y a eu une espèce de vent d'optimisme chez les entreprises, ce qui est différent là, de ce qu'on entend parfois dans les médias. En fait, une espèce d'explosion là, de la confiance. Donc, on a été surpris par ce vent d'optimisme-là. La bourse, depuis le 8 novembre, a monté de 40 % annualisé. Là, ça se calme. Mais ça a été une espèce de période d'euphorie, comme si une espèce de miracle économique va se produire parce qu'il y a un homme d'affaires qui arrive à la tête des États-Unis. Le marché a focusé sur l'aspect stimulant, politique budgétaire expansionniste, plutôt que l'aspect protectionniste, de façon évidente. Et lui, il a dit qu'il était en mesure de faire croître l'économie américaine de 3 % ce qui va être une tâche très, très difficile.
En fait, l'économiste en chef adjoint de la Caisse de dépôt et placement soulève quelques doutes sur la capacité de Donald Trump d'atteindre tous les objectifs économiques dont il a parlé. Par ailleurs, selon lui, les taux d'intérêt vont monter progressivement aux États-Unis. Ce qu'il faut aux États-Unis, c'est une réelle reprise de la consommation. Au Canada, on remarque, et cela apparaît exceptionnel, que l'économie évolue indépendamment de celle des États-Unis. Les politiques monétaires ne semblent plus au diapason. Chose certaine, il faut rapidement des investissements au Canada.
La faiblesse est nettement concentrée dans les investissements de machinerie et équipement. Si vous regardez depuis 2008, on est en baisse de 15 % au niveau de l'investissement en machinerie et équipement. Mais évidemment, il y a un manque chronique d'investissement au Canada. Quand on regarde le stock de capital en Ontario, il est revenu à son niveau de 1973, tellement ça fait longtemps que... Parce qu'il y a de la dépréciation, évidemment, à chaque année. Si vous investissez pas assez, en fait, juste pour niveler la dépréciation, ben votre stock de capital se déprécie. Au Québec, on est au niveau de 1988. Donc, vous comprendrez bien que l'intensité de capital par travailleur a diminué et donc que c'est difficile dans ce contexte-là d'avoir des forts taux de croissance de productivité. Les intentions d'investissement, ça continue d'être assez chétif. En fait, ceux qui pensent investir le plus, c'est les administrations publiques. Beaucoup de composantes du secteur privé, en fait, pensent investir moins en fait, que 2016. De 2006 à aujourd'hui, le secteur privé est égal. En fait, il n'y a aucune croissance, alors que ce sont le secteur public qui a augmenté les investissements en immobilisation. Le Canada, sa main-d'œuvre coûte cher à comparer des partenaires commerciaux qu'on a. En fait, le grand gagnant de tout ça, bien, c'est le Mexique. Quand on regarde les coûts unitaires en main-d'œuvre, avec un ensemble de 49 pays. Depuis l'an 2000, le Mexique, ses coûts ont baissé de 30 %. Évidemment, on inclut les taux de change dans tout ça. Le Canada, on est encore 20% plus haut qu'à l'an 2000.
Malgré que le dollar canadien soit passé de la parité avec la devise américaine à une valeur de 75 cents, nos exportations ne croissent pas, sauf pour l'énergie. Et encore là, il semble que ce ne soit pas aussi reluisant qu'on pourrait le souhaiter. Le pétrole n'a donc pas un réel effet d'entraînement ou de stimulant sur l'ensemble de l'économie. Aussi, le Canada est en attente de ce que va décider l'administration Trump sur plusieurs questions, dont l'avenir de l'ALENA, l'accord de libre-échange nord-américain. Le dernier budget fédéral montre bien l'incertitude.
C'est un budget qui a été très prudent. En fait, c'est plutôt un budget en mode attente. Finalement, il n'y a pas eu de grandes annonces très spectaculaires là-dedans pour la simple et bonne raison que la seule certitude avec M. Trump, c'est qu'il est imprévisible. Et donc, si on fait des grandes choses du côté canadien sans savoir qu'est-ce que M. Trump va faire, ben c'est pas nécessairement optimal. Donc, je pense que le gouvernement fédéral a été prudent. C'est ça qu'il fallait faire. Et on verra s'il y a lieu de réagir autrement une fois que M. Trump va avoir affiché ses couleurs. Mais pour l'instant, ça n'aurait pas été prudent d'avoir fait de grandes choses sans savoir quel va être son élan protectionniste, parce qu'évidemment, on a 70 % de nos exportations qui vont aux États-Unis.
Ici Lionel Levac. Le Canada a besoin d'investissements, en particulier dans ses équipements de production et ses infrastructures industrielles. Mais il a aussi besoin de savoir comment vont se comporter ses principaux marchés, au premier chef, celui des États-Unis. Au revoir.